philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, le 6 octobre 1989.
On va reprendre rapidement cette question du cours sur la philosophie de la matière, parce que si vous prenez le train en marche, vous n'y comprendrez rien. C'est une recherche que nous faisons ensemble. Je dis bien ça parce que c'est très difficile et c'est en même temps très important. Pour Aristote, c'est ce qu'il appelle la philosophie de la nature. C'est très important d'essayer de préciser ce qu'est la philosophie de la nature pour Aristote. Ensuite, de nous poser la question, pouvons-nous continuer cette philosophie de la nature? Comment devons-nous purifier ce regard d'Aristote en fonction de toutes les données modernes de la physique, de la chimie, et ainsi de suite? Mais le problème est très difficile. Au fond, Aristote commence la physique par un premier livre critique. Je crois que nous devons commencer la philosophie de la matière par un premier livre, un premier chapitre critique. Alors, je regarde chez Aristote. Pour beaucoup, Aristote est resté dans la mentalité des historiens de la philosophie, qui ne sont souvent pas assez philosophes et trop historiens. C'est très difficile d'être historien de la philosophie, parce que je crois qu'on ne peut être historien de la philosophie que si on est philosophe. Parce que c'est l'histoire de la pensée. Comme on ne peut pas faire l'histoire de l'art si on n'est pas un artiste. C'est impossible. On regarde les choses autrement, tout à fait de l'extérieur. Alors c'est plus l'histoire. Pour Aristote, dans la pensée de beaucoup, c'est la logique et la philosophie de la nature. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la logique est complètement changée depuis Occam. Et on aboutit à la logique mathématique aujourd'hui, qui joue un rôle important pour l'informatique. Ça, c'est sûr. C'est pas à cause du livre du réfectoire, mais c'est parce que c'est comme ça. Le père Boransky, que je connais bien, pour lui, la philosophie aujourd'hui, c'est la logique mathématique. Il m'a dit ça il y a 20 ans. En disant, au bout de 10 ans, il n'y aura plus que la logique mathématique. Mauvais prophète. Et je lui ai dit à ce moment-là, non, c'est pas vrai du tout. Au contraire, on verra que la logique mathématique n'est pas philosophique du tout. Alors, vous voyez, Aristote est complètement mis à l'écart devant la logique mathématique. Il y a un problème qui se pose, très important au point de vue critique. Est-ce que la logique mathématique est en continuité avec la logique d'Aristote? Le père Boransky avait fait un livre à Fribourg sur la continuité de la logique d'Aristote avec la logique mathématique. Pour son malheur, j'étais censeur. Et j'ai refusé de citer l'imprimature. Alors ça fait partie de ces luttes entre nous, parce que ça c'était très dur pour lui. Il dit, je ne peux pas accepter que la logique d'Aristote soit en continuité, ou que la logique moderne, la logique mathématique, soit en continuité. En deux mots, c'est très simple, la logique d'Aristote est une logique de l'attribution. C'est très net. Pierre est intelligent. C'est aristotélicien. de l'attribution, le nom et le verbe. Et toute la logique d'Aristote commence par le nom et le verbe. Le nom qui est sujet et le verbe qui est l'attribut par excellence. Pierre marche. Et ceci dépend pour Aristote de ces deux opérations d'intelligence, appréhension et jugement. Pour la logique stoïcienne, c'est la logique de la relation. S'il pleut aujourd'hui, demain il fera beau. Selon une certaine constance, que c'est rare qu'il y ait une continuité dans le temps. Dans le temps. Le beau temps. Ou le mauvais temps. Mais si PQ, hein, c'est la fameuse expression. On voit très bien ça. Il y a les deux qui sont reliés par un lien de nécessité. Mais ce n'est plus la logique de l'attribution. La logique stoïcienne ne tient plus compte. C'est uniquement le point de vue de la relation. Dans Occam, c'est la même chose. Et dans la logique mathématique, c'est la même chose. C'est la logique du raisonnement. Et la seule chose qu'on peut capter dans cette logique, c'est le raisonnement. Ce n'est plus l'attribution. Alors vous voyez que toute la logique est changée à partir de là. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il y a une continuité. Bon, ça, c'est un problème important, très important dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde de l'informatique. Savoir ce qu'on est capable de donner comme nourriture à l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il mange? Faut toujours demander ça à un animal. Quelle est votre nourriture préférée? Puisque c'est par l'aliment qu'on connaît l'animal. Alors il faut savoir ce qu'on lui donne à manger. Nous, ce qu'on nous donne à manger, c'est l'attribution. Notre langage est un langage d'attribution. Tous les langages sont un langage d'attribution. Nom et verbe. C'est vrai. Alors et en plus, les conjonctions qui unissent, mais c'est toujours nom et verbe. Je crois dans toutes les langues. Tandis que la logique stoïcienne, c'est la logique non plus de l'attribution, mais de la relation. C'est tout à fait autre chose. C'est autre chose, c'est périphérique. La relation est toujours périphérique. C'est pour ça que le périphérique joue un tel rôle dans notre monde d'aujourd'hui. On tourne indéfiniment. Tournez 10 fois autour de Paris, vous connaissez Paris. Si vous dites ça, vous dites, mais il est fou celui-là. Et c'est comme ça. C'est ça qui est très curieux. C'est qu'on fait ça tout le temps. Et on dit qu'on connaît. Mais on connaît pas du tout. Périphérique. C'est merveilleux comme stratégie. Oui. Pour la stratégie, c'est très bien. Parce que vous pouvez mettre... Si vous tournez indéfiniment autour de Paris, vous interdisez aux gens de sortir. Donc vous faites la famine. Donc comme stratégie, comme procédé stratégique, c'est merveilleux. Mais comme procédé de compréhension, non. Il vaut quelquefois mieux ne pas comprendre pour que la stratégie existe. Parce que dès que vous comprenez, vous ne pouvez plus faire la stratégie. C'est très curieux. Écoutez la lecture du réfectoire. C'est très intéressant. C'est un petit peu dur pour manger. Hein. Ça fait rien. On arrive à manger dans les moments creux. L'autre aspect d'Aristote, c'est la philosophie de la nature. Et alors la même chose, la philosophie de la nature est supplantée par le point de vue de la physique moderne. Donc Aristote, très bien pour son temps, il a régné sur le Moyen-Âge jusqu'au XIVe siècle. Et à partir du XIVe siècle, on est entré dans quelque chose de nouveau. Et le sommet également. Il faut bien voir ça, parce que, au fond, l'histoire de la pensée, dans ses sommets, elle est simple. Dans la petite cuisine, elle est compliquée. mais dans les sommets, elle est simple. Alors, est-ce que nous pouvons accepter ça? C'est la même chose au point de vue logique. Je continue d'enseigner la logique d'Aristote, parce que je crois que c'est la seule vraie logique de l'homme, tout ce court. Tandis que l'autre, c'est la logique de l'efficacité, c'est la logique artificielle, c'est une logique, mais même pas pour un grand matheux, quand vous dites que les mathématiques se ramènent à la logique mathématique, un vrai mathématicien dit non, c'est faux. Ce qui est très vrai. Les mathématiques sont bien supérieures à la logique mathématique. Du reste, c'est autre chose. Alors, nous allons essayer de comprendre, pour Aristote, quelle est la place de la philosophie de la nature. C'est la première philosophie spéculative. Parce que c'est celle qui est le plus proche de notre expérience. Nous expérimentons le monde physique directement. Mais il y a Héraclite qui a joué un très grand rôle et qui a été saisi par Platon. Héraclite dit Pantareille, tout coule dans le monde physique. Vous ne pouvez pas descendre deux fois dans le même fleuve. Mais quand vous êtes à l'eau vive, vous comprenez le Pantareille. Parce que vous voyez le torrent qui coule. Vous ne pouvez pas descendre deux fois dans ce même torrent. C'est pas la même eau. Pantareille, tout coule. Aristote est trouvé devant ce Pantareille d'Héraclite. Et Platon qui rejette la philosophie de la nature. La philosophie de la nature ne peut pas exister pour Platon. Pourquoi? Parce que la matière est du non-être. Si la matière est du non-être, la philosophie de la nature ne peut pas exister. Parce que vous ne pouvez pas étudier le non-être. La matière est cause errante pour Platon. Cette expression qui est si forte, qui est très belle. C'est poétique, mais c'est beau. C'est cause errante. Donc si la matière est cause errante, vous ne pouvez pas l'étudier. Vous ne pouvez pas l'étudier philosophiquement. Elle est cause de la corruption. Elle est cause de toutes les erreurs. Elle est cause de toutes les monstruosités de la nature. Tous les monstres sont apparentés à la nature, à la matière. Aristote va montrer qu'il y a une certaine intelligibilité dans le mouvement. Le mouvement est source d'une certaine intelligibilité. L'être qui est mu n'échappe pas complètement au philosophe, c'est-à-dire à l'intelligence humaine. Pourquoi ? Alors il dit ça dans son livre premier, ce qui est très intéressant, ce livre premier. Pourquoi ? Parce que tout mouvement est entre deux contraires. Si tout mouvement est entre deux contraires, je peux au moins comprendre les deux contraires. Et par les deux contraires, je comprends la signification du mouvement. Autre chose est d'aller de Rimont à Paris ou de revenir de Paris à Rimont. C'est pas la même chose. Au point de vue de l'intelligibilité. Au point de vue du prix du billet, c'est la même chose. Mais ça, c'est économique. Mais au point de vue de l'intelligibilité, c'est tout à fait différent. Et puis, il y a un sujet. Les deux contraires sont dans le même sujet. Successivement, pas en même temps. Grâce au mouvement, les deux contraires habitent le sujet successivement. Et c'est la grandeur du mouvement de permettre au sujet d'avoir ces deux contraires. Ces deux contraires inhèrent dans le sujet, successivement. Et c'est grâce au mouvement qu'il peut y avoir ça. C'est extraordinaire, cette vision. C'est très beau de voir, vous voyez, que le mouvement s'étudie et ne peut s'étudier que par un triangle. Toute la dialectique est là. Deux contraires, un sujet. Alors comprenez bien, hein, toute la dialectique est là. C'est pas du tout la dialectique. Mais je comprends que le mouvement ne peut se comprendre que s'il y a trois pointes. Et on fait du sujet la synthèse, parce qu'elle assume les deux contraires. Et donc, celle qui est au-dessus des deux contraires. Et on rend intelligible le mouvement de cette manière-là. Il y a une parenté entre Hegel et Aristote. Vous savez bien ce que dit Hegel sur Aristote. C'est le seul philosophe qui forme. Un coup de chapeau, magnifique. Et je crois que ce que Aristote a fait au plan philosophique en essayant de découvrir les causalités propres, Hegel, lui, fait la philosophie du conditionnement. Il ne saisit plus la nature profonde. Il ne saisit plus les principes propres. Mais c'est toujours le conditionnement. Je crois que c'est très vrai, ça. C'est la grande philosophie du conditionnement. C'est pour ça que ça va tellement bien avec la psychologie d'aujourd'hui. Oui, c'est le fondement de la psychologie. On ne voit plus que ça. Il n'y a plus de finalité. Il n'y a plus d'analyse cause matérielle et cause formelle. Non. Tout est saisi dans la synthèse. C'est très curieux. Il y aurait à pousser ça. C'est important de voir ça. Donc Aristote montre que ce qui est mu est intelligible par les contraires et par son sujet. Toute l'intelligibilité du mouvement vient des deux contraires, de Rimont à Paris. Et le sujet, je vais à Paris en deux chevaux. C'est le sujet, ce mouvement. Vous êtes dedans, mais vous êtes porté par la deux chevaux. Ou vous allez à Paris dans une autre voiture. C'est pas le même voyage. Et la rapidité est différente en fonction du mouvement, en fonction du sujet. Tout mouvement implique les trois. Oui. Réduire l'intelligibilité du mouvement à ces trois points de vue, ça c'est très fort. Et c'est très intelligent. À partir de là, Aristote va nous montrer que les réalités physiques, c'est-à-dire les réalités qui sont mues, les réalités que je contacte, que j'expérimente, toutes les réalités de notre monde physique, impliquent une détermination dans leur mouvement. Chaque chose dans la nature a un mouvement propre, qui n'est pas le mouvement du voisin. L'eau est mue autrement que l'air. Autrement que le feu, autrement que la terre, autrement que la pierre. Autre chose est tailler la pierre que de bêcher. Quand je dis ça au chapitre à Saint-Jeanard, je vois l'hilarité des deux tailleurs de pierre. Vous êtes tailleur de pierre, donc vous allez bêcher. Alors vous voyez, tout de suite le tailleur de pierre dit, mais la pierre, c'est pas la glaise. D'autres choses, pas la même chose. Mais, constatation très simple d'Aristote, de la détermination du mouvement. La pierre ne tombe pas de la même manière que la terre, que l'eau. C'est différent. C'est important ça, parce que c'est à partir de là que se pose la question, mais alors, à partir de cette détermination, dans ce mouvement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de saisir ce qui est source de ce mouvement? Et vous voyez la difficulté, c'est que la réalité physique est mue, elle ne se meut pas. Tout notre monde physique est mu, il ne se meut pas. Alors comment pouvoir préciser un principe de détermination à l'égard d'une réalité qui est mue? Parce qu'une réalité qui est mue, ben oui, la détermination de son mouvement vient de ce qui la meut. Vous donnez un coup de chiquenaude sur une boule, la boule est mue. Le billard, la boule est mue. Elle est mue dans la direction de vos coups de chiquenaude. forme de la moule. Ah, bien mieux c'est parce que si vous donnez un coup de chiquetote sur un petit carré, c'est pas la même chose. Le carré va peut-être bondir si votre coup de chiquetote, ce sera le saut de la puce. Tandis que lorsque vous avez un coup de chiquetote sur la boule, c'est plus du tout le saut de la puce. Ça roule. Et ça roule bien. Vous voyez, ces constatations très très simples, hein, qu'Aristote fait pour découvrir que ce qui est mu implique une détermination, une capacité à être mu. Et qu'il y a entre ce qui est mu et ce qui meut une certaine conformité. Ça, c'est là, toute la philosophie de la nature va dépendre de ça. Il y a des mouvements qui sont artificiels et qui ne sont pas en conformité avec ce qui est mu. Vous avez du bois. Vous brûlez le bois. Est-ce un mouvement artificiel ou naturel? Que le bois soit brûlé. Vous avez du bois. Vous le confiez à un artisan, à un menuisier. Il en fait des planches. Il en fait des statues. Mouvement artificiel. Comment discerner? C'est la première distinction qui est fondamentale dans toute la philosophie de la nature. Comment discerner le mouvement artificiel et le mouvement naturel? C'est là où, vous voyez, on comprend très bien qu'avant la philosophie de la nature, il y a la philosophie de l'art. La philosophie de l'art est plus proche de ma sensibilité, de mon expérience, que la philosophie de la nature. Et je ne peux pas étudier le mouvement naturel sans avoir vu ce que c'était que le mouvement artificiel. Ce qu'on ne voit jamais, ça. Je vois très bien Robin, qui a écrit sur Aristote, n'a absolument pas compris. Il critique Aristote en disant qu'Aristote fait une philosophie de la nature dans la lumière de la philosophie de l'art. C'est juste l'inverse. Parce qu'Aristote se sert constamment des analogies de l'art. Constamment. Pour comprendre la nature. Et alors Robin dit, voyez bien, au fond, la philosophie de la nature d'Aristote, c'est une vision artistique du monde. Il n'a pas compris ce que c'était que l'analogie. Parce que Robin a écrit un livre sur Aristote, qui est très intéressant, pour voir l'incompréhension d'Aristote. Ce point de vue-là, c'est très intéressant. Parce que ça on voit qu'on... Mais Robin aime beaucoup Platon. Et alors, il lit Aristote dans la lumière de Platon. Et dans la lumière de Platon, c'est vrai. Comme pour Hegel. Petit exemple dans l'esthétique d'Hegel, tu vois. J'apprécie le chant du rossignol grâce à tel air de musique que j'ai entendu. Donc c'est à travers la connaissance artistique que je touche la nature. C'est très joli ça, hein. Et pour Platon c'est comme ça. C'est à travers l'art que je connais la nature. Puisque la nature, par la matière, est non-être. Donc je ne peux connaître la nature que par le mouvement artificiel. Je ne connais le bois que par la statue. Dites ça à un menuisier. Est-ce que vous connaissez le bois uniquement parce que vous avez vu une statue? Il est sûr que la statue me donne une nouvelle connaissance du bois. C'est sûr. Mais il y a une connaissance du bois qui est indépendante de la statue. Oui, ce premier discernement qui est antérieur à la philosophie de la nature. Est capital. Si vous n'arrivez pas à ce premier discernement, vous ne pouvez pas comprendre la philosophie de la nature d'Aristote. La porte est fermée. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre la philosophie d'Aristote dans une vision idéaliste. Impossible. Mais c'est peut-être là où, justement, on se sépare de l'idéalisme. Alors prenez les exemples très très simples. Quand vous découvrez dans le désert une pierre taillée, du moins, une pierre qui a l'air d'être taillée dans le désert de Judée. de Judas, j'ai retrouvé comme ça une fois, très étonnante. Je l'ai mise dans ma poche, évidemment, parce qu'elle était très belle. J'ai demandé à un archéologue de Saint-Étienne, l'école biblique, est-ce que c'est une pierre taillée ou est-ce que c'est une pierre naturelle ? J'aurais pas le dire. Si elle est taillée, elle est admirablement taillée. Ça aurait servi d'un outil pour tailler le bois, quoi. Comme ça aurait fait qu'un coin, si vous voulez. Un coin, on peut le tailler ou on peut servir un point de vue naturel. Monsieur Test de Valérie. Monsieur Test de Valérie, au bord de la mer, il voit des petits coquillages. Il voit des choses qui ont l'air. Alors, est-ce que c'est taillé par la mer ? Alors là, c'est naturel. Le sable, quand la mer est passée, ça fait encore beaucoup mieux qu'en repasser. Vous n'arrivez jamais à avoir un repassage aussi parfait que ce que fait l'océan. Un sable repassé par l'océan. Et puis la manière dont vous repassez avec un... C'est tout à fait différent. Discerner ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Vous voyez, première pour l'expérience du mouvement naturel. Qui n'est pas un mouvement artificiel. Et là, il y a quelque chose de très particulier. Comment discerner les deux ? C'est par le point de vue de la fidélité. Et aussi par le point de vue de la coopération. Mais c'est très subtil. Parce que dans l'art, il y a aussi une coopération. L'art n'est pas toujours violent. Il est toujours violent aussi. Parce qu'il est toujours extrinsèque. Il meut de l'extérieur. Arriver progressivement, parce que c'est progressif, faut pas croire qu'on fait ça d'un seul coup. C'est une connaissance spéculative. Hein. La nature, c'est une connaissance spéculative. Donc c'est une connaissance qui est déjà très affinée. Qui n'est pas du tout une description. Arriver par induction, la première, à découvrir que le mouvement naturel provient de l'intérieur. Il est immanent. Alors que le mouvement artistique est violent. Il vient d'extérieur. C'est le propre du mouvement naturel. Et ce mouvement naturel implique donc un principe qu'on va appeler phusis, nature. Il y a un principe naturel. Ce principe naturel va impliquer, parce que c'est dans le mouvement, je le saisis à travers le mouvement. Je le saisis dans le mouvement. La nature est présente dans le mouvement. Et dans ce mouvement, je vais découvrir une détermination et une potentialité. Et cette potentialité me fait comprendre comment il y a possible, c'est possible de contrarier le mouvement naturel, d'arrêter le mouvement naturel par un point de vue artificiel. Quand vous faites un barrage, vous arrêtez un mouvement naturel. Comment pouvoir arrêter un mouvement naturel ? C'est que dans tout mouvement naturel, il y a une potentialité, il y a une indétermination. Et donc vous pouvez agir sur la détermination et contrarier la nature. Oui, je crois ça très important de saisir cette première induction d'Aristote qui n'est pas très explicite. Hein. Quand vous lisez Aristote comme ça, sans en tenir compte, vous dites non, il n'a pas la nature. Et c'est pour ça que des quantités parlent de la nature d'Aristote d'une façon qui n'est plus du tout aristotélicienne, mais qui est stoïcienne. C'est descriptif. Pour les stoïciens, la nature, c'est descriptif. Je vois la nature. Pour Aristote, je ne vois pas la nature. Je la saisis par l'intelligence. La nature est archée, elle est principe. La nature est cause. Si la nature est cause et principe, seule l'intelligence saisit la nature. Ce que je saisis, c'est le mouvement. Et le mouvement est complexe. Dans le mouvement, il y a trois choses. Dans tout mouvement, il y a trois choses. Qu'Aristote a dit au point de départ. C'est pour ça que c'est intelligible. Dans le panne d'arrêt, il y a trois choses. Il y a un mouvement, un fluxus, un devenir. Ça bouge tout le temps. Quand quelqu'un veut prendre la photographie de quelqu'un qui n'a pas un appareil suffisamment puissant, ne bougez pas. Vous savez comment on disait dans le temps. Ne bougez pas. Et si vous bougez tout le temps, ça se verra sur vous. Vous ferez une mauvaise photographie. Et le fluxus, il y a une détermination. C'est ce fluxus. Et dans ce fluxus déterminé, il y a une indétermination. Ça, nous pouvons tous analyser n'importe quel mouvement. Vous trouvez les trois choses.
Quand vous travaillez manuel,
quand vous marchez, alors là, c'est différent. C'est vous qui êtes cause de ça. Et c'est toujours un mouvement. Quand vous travaillez, travail manuel, c'est un mouvement. Moi, c'est pas une mauvaise hasard, moi je travaille. Non, il y a un fluxus. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge. Donc, dans tout mouvement, il y a un devenir. Il y a quelque chose qui change. Vous êtes très attentif à la liste des mouvements. Il faut regarder très longuement pour voir que ça change. Vous restez longtemps. Le pan d'arrêt, je peux saisir la nature. Parce que ce mouvement a des caractères différents. Il n'est pas toujours le même. Et je crois que c'est très important de comprendre ce chapitre 2 de la physique d'Aristote, où il découvre la nature comme principe immanent de la réalité physique. Et c'est bien mu, puisque c'est un fluxus. Ce qui est physique subit le mouvement. Il ne le devine pas, il le subit. Et donc, il est vraiment mu. Et il est mu grâce à ce principe intrinsèque qu'on appelle la nature. La nature, principe immanent, c'est un principe saisi par l'intelligence, et comme tout principe, dans les seconds analytiques, puisque vous le voyez avec M. Balmès, vous verrez que dans les seconds analytiques, Aristote dit que tout principe est saisi par induction. Et que le point de départ de la connaissance, c'est ou l'expérience, ou ce que vous avez saisi par induction. L'induction peut saisir une source. La nature est source de mouvement. Donc vous voyez bien ce que c'est que cette nature. Et à partir de là, Aristote va développer une philosophie. Puisqu'il y a un principe propre, il y a une philosophie propre. Et la philosophie de la nature prendra, dans la recherche d'Aristote, une place capitale. Et pour Aristote, le vivant fait partie de la philosophie de la nature. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le mouvement. Seule l'intelligence émerge. Et ce sera cette grande découverte d'Aristote dans le Péripsyché, où il découvre le nous, l'intelligence, comme émergent. En dehors de l'intelligence, rien n'émerge du mouvement. Tout est dans le mouvement. Et donc, il garde ce qu'il y a de vrai dans cette intuition d'Héraclite, mais il corrige Héraclite en montrant que même si tout est ému, il y a une possibilité de comprendre quelque chose dans le monde physique. Et s'il y a possibilité de comprendre quelque chose dans le monde physique, nous devons le comprendre. Vous voyez, cette perspective d'Aristote est toujours en rivalité, nous comprenons bien, pas dialectique, confrontation avec la philosophie de l'art. Et je crois ça très important à comprendre. Pourquoi ? Parce que la philosophie de la nature intéresse l'homme. Et la philosophie de la nature, c'est pour connaître ce qu'est le corps de l'homme. Ça, c'est sûr. Aristote ne le dit pas explicitement, quoi qu'il le dit dans les parties des animaux. Or, pour Aristote, je ne peux pas connaître parfaitement la philosophie du vivant si je ne connais pas la philosophie de la nature. Donc, on peut dire que ce qu'il dit dans les parties des animaux à propos du corps de l'homme, la station droite, les mains, les pieds, toutes les sensations, le corps de l'homme, cathédrale de molécules. Aristote dit pas ça. Mais Aristote dit quelque chose encore plus beau que la cathédrale de molécules. La station droite de l'homme, c'est admirable. Ça ne fait pas du tout le passage de l'animal, du singe supérieur à l'homme. Non, il voit tout de suite la dignité de l'homme. Pourtant, il n'a pas la révélation. Il est intelligent. Alors, il voit tout de suite la dignité de l'homme. Dans la mesure où il est intelligent, on voit la dignité de l'homme. Et on voit la dignité du corps au service de l'esprit. C'est ça, cette grande vision. Le monde physique, fondement du monde biologique, et le monde biologique tout ordonné à l'esprit. Les trois aspects couronnés, voyez, par le point de vue des Péripsychès. Donc on peut dire que pour Aristote, on a la physique, Péripsychès. Au sommet du Dianima, Penus. Nous sépare l'intelligence. Pas la raison, l'intelligence. Pas l'entendement, l'intelligence. Faut toujours traduire nous par intellectus. L'intelligence peut nous séparer de la matière. Donc, le point de départ, ce qui est vu. Ce qui est mu naturellement. C'est ce qui est mu naturellement qui nous permet de connaître la nature, la position. Et cette position implique donc ces trois éléments. Implique cette position et les sources, les principes arcaïques. Principe immanent. Ce qui mue. Donc, il y a les trois aspects, l'aspect matière, la détermination, l'aspect forme et l'aspect devenir. Tu vas voir les trois. La phusis est principe du devenir, du fluxus. Satana emploie facilement ce terme. C'est beau, tu vois. Alors, il faudrait lire maintenant ce que Bergson dit sur ce qu'Aristote dit du mouvement. Et vous verrez que personne, si intelligent, n'a pas compris. Il ne comprend pas du tout ce que c'est que l'analyse. L'analyse Aristote, il comprend l'analyse Aristote comme une séparation. Et donc, l'analyse Aristote détruit le mouvement. Il dit le mot, c'est le fluxus. C'est justement ça qu'Aristote a vu. Le devenir, c'est le fluxus. Pas d'arrêt. C'est successif. Mais pour comprendre ce fluxus, je peux l'analyser. J'analyse dans les deux contraires et le sujet. Donc, la détermination. Tout mouvement implique une détermination. Et tout mouvement implique une indétermination. Forme, matière. Je passe tout de suite à notre position à nous. Oui, je crois que ce qu'Aristote dit là, c'est une analyse au niveau spéculatif. Que la science physique contemporaine, que la chimie contemporaine et tout autre peut-être, et même j'en suis sûr, et nous l'avions souligné, dans la position d'Aristote vis-à-vis de l'astronomie, là, nous devons faire attention. Il y a certaines choses que nous ne pouvons plus affirmer. Mais que nous devons affirmer d'une autre manière. Et peut-être qu'en affirmant de cette autre manière, on retrouve ce qu'Aristote a dit. C'est très possible. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Je regarde ce point de départ, vous voyez. La physique contemporaine, qui est la science physique, ne cherche pas du tout cette analyse philosophique avec l'induction. C'est plus la nature qu'on regarde. C'est beaucoup plus une analyse scientifique, donc, en se servant des mathématiques, sur ce que représente la manière dont on peut mesurer les effets du mouvement. C'est pas le mouvement non plus qu'on étudie. Les effets. Les oppositions. Tout ce qui est mesurable. Il y en a un certain nombre des lois. Alors, c'est pour ça que beaucoup de thomistes, entre autres maritains, fait la comparaison entre la physique d'Aristote et puis la physique contemporaine. C'est le même mot, ça qui est très ennuyeux. Parce que ce sont deux réalités totalement différentes. Et je crois qu'il faut bien considérer que c'est totalement différent. Que la science moderne, dans certains domaines, oblige le philosophe d'être plus philosophe, tout à fait d'accord. Je crois que nous devons repenser la physique d'Aristote dans une perspective philosophique de l'expérience, philosophie réaliste, mais une philosophie très centrée sur l'homme. Je crois que ça, c'est le progrès qu'on peut faire par rapport à Aristote. Parce que les sciences modernes obligent le philosophe d'être plus philosophe dans son domaine propre. Or, le philosophe est philosophe pour connaître l'homme. C'est l'homme qui l'intéresse. Face aux mathématiques, face aux sciences dépendant des mathématiques. C'est pour ça que la naissance de cette partie de la connaissance spéculative, je dis que c'est à partir de la philosophie de l'art qu'on commence à la comprendre, et dans sa finalité, le corps. Je vais reprendre ça.